Voilà, commençons la première de ces quatre soirées de récollection en paroisse au cours de ce carême. Quatre soirées pendant lesquelles nous allons nous retrouver, une fois tous ensemble, une fois avec les femmes de la paroisse, une fois avec les hommes de la paroisse, et une nouvelle fois tous ensemble, pour nous mettre à l'école de Saint Jean-Paul II. Pourquoi Saint Jean-Paul II? Parce que j'ai une raison suffisante. Mais aussi parce que c'est un grand saint qui a marqué beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, qui était un peu vraiment le père pour, je vais dire, une génération, plusieurs générations, en fait, qui a marqué la vie de foi de beaucoup d'entre nous. J'ai voulu méditer pour cette première soirée. On va méditer, on va avoir cet enseignement pendant quelques minutes, et puis nous allons ensuite prendre le temps de vivre un temps d'adoration, de prière silencieuse, sans rien d'autre que d'être avec le Seigneur. C'est bien de parler de lui, sans pour lui de l'écouter ou de lui parler, et puis ensuite on partagera une petite soupe. Comme il se voit dans le vieux carême. Alors, je voulais méditer pour cette première soirée le thème de la miséricorde. Pourquoi? Parce que Saint Jean-Paul II nous a été vraiment donné comme le pape de la miséricorde. C'est le titre, d'ailleurs, le thème d'une de ses toutes premières encycliques, hein, 1980. Il a été élu pape en 78. Dives in misericordia, Dieu riche en miséricorde. C'est aussi lui, vous le savez, qui a institué la quête de la divine miséricorde, après avoir remis en valeur le message du Seigneur à Saint-Faustin. Il est décédé aux premières lettres du dimanche de la miséricorde, la divine miséricorde de 2005, le 2 avril 2005. On avait fêté le lendemain, ce dimanche de la miséricorde. Vous savez que le dimanche commence avec les premières lettres qu'on prie le samedi soir. Et puis c'est aussi un pape qui a incarné la miséricorde. Il n'a pas simplement parlé de la miséricorde, mais l'a incarné. Une des images les plus marquantes que nous gardons tous, c'est bien sûr l'entrevue de Saint Jean-Paul II avec Ali Aksa, celui-là même qui avait tiré dessus, 1981. Le pape allait mourir, c'était un miracle qu'il avait même attribué à Notre-Dame de Fatima, qui a pressé. Quand les médecins lui diront, on ne comprend pas pourquoi la balle a pu comme ça dévier, éviter les organes vitaux, lui, immédiatement, reliera ça à l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Il ira déposer d'ailleurs cette balle, une couronne de la Vierge à Fatima. Et quelques temps plus tard, il voudra aller rencontrer son agresseur dans sa prison. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit ce jour-là, on ne le saura jamais, mais on a tous en mémoire cette image qui me rappelle, moi, le tableau de Rembrandt, juste prodigue, où il y a que ça, et ainsi, il n'est pas possible, le pape. Vraiment, l'enveloppe de sa miséricorde, de sa tendresse, est très, très fort comme image, vous avez vu verser le monde entier. Alors, mettons-nous à l'école de Saint Jean-Paul II, pape de la miséricorde, pour méditer ce thème. Le carême aussi est un temps propice pour cela, puisque ce travail de conversion que nous essayons de mener, au fond, consiste à se rendre disponible à la miséricorde de Dieu. Parce que cette œuvre de conversion, véritablement, c'est l'œuvre de la miséricorde. Si Dieu n'était pas miséricordieux, ça ne servirait à rien d'essayer de se rapprocher de lui. Il nous repousserait. Si Dieu n'était que justice, implacable, alors, au moindre écart, il n'y aurait qu'un petit possible de gagner. si nous pouvons aller à travers les vies ce temps de conversion, c'est parce que nous croyons que Dieu nous attend, n'est pas ouvert. Le carême est vraiment un temps propice pour redécouvrir la réalité de la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est un temps où la miséricorde se donne en surabondance. C'est un temps où nous découvrons que Dieu n'aime pas le péché. C'est pour ça que nous aussi, nous essayons peu à peu de m'éloigner de nous, de notre vie, mais Dieu aime les pécheurs que nous sommes, profondément. Et tout le carême nous prépare à vivre la semaine sainte, qui est, je dirais, comme la manifestation au plus haut sommet de la miséricorde de Dieu, qui s'incarne en Jésus. Jésus est la miséricorde de Dieu. Jésus est là parce que Dieu est miséricordieux, n'abandonne pas l'homme et le monde à son sort après la chute, mais parce que Dieu, ne cessant pas d'aider l'homme, lui envoie un sauveur. Et la miséricorde se révèle en Jésus. C'est pour ça que Jésus dira qui me voit, voit le Père. Il comprend la miséricorde de Dieu, regarde Jésus. Entends-le. Priez sur la croix, Père, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez-le, aimez et pardonnez le condamné. Regardez-le, priez pour ses bourreaux. Regardez-le, embrassez Judas. Voilà la miséricorde de Dieu. Alors, je voudrais m'inspirer simplement de quelques passages de l'Antiquité de Jean-Paul II sur la miséricorde, 30 novembre 1980, Dives Misericordia, et m'arrêter sur deux passages, vous êtes allé sur cette équipe, hein, mais peut-être accessible, on l'a trouvé facilement sur Internet. Il y a deux passages. Le premier, c'est un passage sur la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Jean-Paul II commence par reprendre cette méditation-là. Pourquoi? Peut-être parce que, justement, on a une vision du Dieu de l'Ancien Testament qui n'est pas miséricordieux. Souvent, c'est un peu le regard un peu simpliste qu'on peut avoir quand on survole simplement les Écritures. On a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu violent, un Dieu qui punit, un Dieu qui fait justice. Et le Dieu du Nouveau Testament serait au contraire un Dieu uniquement gentil, de l'adorable, de naïf. Évidemment, c'est une caricature de part et d'autre. Dieu ne change pas. Dieu est le même. Les hommes ont compris peu à peu le visage de Dieu. Mais Dieu se révèle tel qu'il est dès l'Ancien Testament. Et en particulier, il se révèle miséricordieux. Et ce qui est intéressant dans ce que dit saint Jean-Paul II, c'est qu'il dit, en fait, le peuple élu, Israël, va faire l'expérience de la miséricorde à la fois en tant que peuple, une expérience communautaire de la miséricorde, et puis une expérience individuelle de la miséricorde, à travers toutes les figures. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qu'on n'expérimente pas assez en paroisse ou en famille. On a l'expérience individuelle de la miséricorde. Quand je me confesse tout seul, je me sais pardonner. Mais par exemple, au début de chaque messe, vous voyez, il est beau de voir toute une communauté qui supplie et intercède, qui demande la miséricorde de Dieu pour elle. Il est beau, rappelez-vous les images à Lourdes de l'Assemblée des évêques, à genoux, sur le parvis, parce que vous vous souvenez, demandant, implorant la miséricorde de Dieu pour tous les abus qui ont été commis, etc. Et de sentir, c'est pas simplement des histoires personnelles, une conversion personnelle. C'est toute une famille, tout un peuple, toute une église qui implore ensemble la miséricorde de Dieu, qui se reconnaît ensemble pécheurs. Les pécheurs, les peuples pécheurs, les pécheurs, le peuple aussi des pécheurs pardonnés, évidemment. C'est ce que va dire en tout cas Israël, qui va faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, en fait, en prenant conscience de son infidélité. Et tout l'Ancien Testament, vous avez une alternance d'infidélité de la part du peuple choisi, qui à chaque fois la même à se tourner vers le Seigneur, à implorer sa miséricorde. Je parle de Jean-Paul II, je le cite, explique les significatifs que les prophètes dans leur prédication relient la miséricorde qui parle souvent à cause des péchés du peuple à l'image de l'amour ardent que Dieu lui porte. Le Seigneur aime Israël d'un amour d'élection particulier semblable à l'amour d'un époux. C'est pourquoi il lui pardonne ses fautes et jusqu'à ses infidélités et ses trahisons. La miséricorde signifie une puissance particulière de l'amour qui est plus fort que le péché et l'infidélité du peuple élu. Vous avez cela illustré, par exemple, dans le livre d'Osée, avec des paroles très fortes, où Dieu, comme un époux trahi, se plaint de l'infidélité de son épouse et qui veut, avec une violence des mots impressionnants, on sent toute l'amertume, la douleur, la tristesse de celui qui est trahi. Et, notre évangile, du trépidé, est aimé. Et puis, mais non, je t'emmènerai au désert. Et là, je te séduirai à nouveau. Et je me chancerai à toi. Et, l'amour repart. Parce que l'époux, même trahi, même blessé, ne peut pas renoncer à aimer son épouse. En tout cas, Dieu ne le fait pas. Et c'est très fort, vous voyez, mais très loin d'un Dieu qui fracasse quelque part. Dieu qui, à la fois, partage sa douleur qu'Israël lui cause par ses multiples infidélités, mais qui en même temps revient vers son peuple. Je vais te séduire à nouveau. C'est très touchant pour nous parce que, vous voyez, c'est pas simplement nous qui revenons cas vers Dieu, un peu piteusement. C'est lui qui veut nous reconquérir. C'est lui qui va vers nous. Parce que la miséricorde est une puissance particulière de l'amour, qui est plus forte que le péché et l'infidélité. Voilà la miséricorde de Dieu. On a le peuple qui va en faire aussi évidemment l'expérience lors de la libération de l'Égypte. Dieu, vous voyez, je dirais à plusieurs reprises, Dieu a regardé son peuple et a vu la grande pitié du peuple d'Israël. Alors, il est venu pour le libérer. Et le regard de Dieu sur son peuple en détresse, un regard qui n'est jamais indifférent, un regard qui est saisi, Dieu qui est saisi aux entrailles, quand il nous voit dans l'épreuve, quand il nous voit souffrir, et qui ne nous abandonne pas à notre esclavage, dans lequel le péché nous a mis. Le Seigneur vit la misère de son peuple, j'ai dit en esclavage, mais entendit ses clameurs, perçut ses angoisses, et résolut de le délivrer. Dans cet cet acte de salut réalisé par le Seigneur, le prophète discerne son amour et sa compassion. C'est là que s'enracine la confiance de tout le peuple et de chacun de ses membres en la miséricorde divine qu'on peut invoquer en toutes circonstances tragiques. Encore autre expérience que va faire le peuple lorsqu'il va connaître, lorsqu'il va tomber très bas au moment de l'Exode en érigeant le veau d'or. Le Seigneur est absolument dégoûté de voir ça. Comment le peuple peut lui faire cela? Mais pourtant, il va se déclarer solennellement à Moïse, je suis le Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère et plein de miséricorde et de fidélité. Et c'est au-delà de la colère légitime de Dieu, il choisit d'être pour son peuple le Dieu plein de miséricorde et de fidélité, Dieu de tendresse et de grâce. C'est ça le Dieu dans ce Testament. Déjà, c'est comme ça qu'il sert. Toutes les nuances, dit le pape, toutes les nuances de l'amour se manifestent dans la miséricorde du Seigneur envers les siens. Il est leur père, le souverain et son fils bien-aimé, premier. Il est aussi l'époux de celle à qui le prophète annonce un nom nouveau, bien-aimé, parce que la miséricorde lui sera faite. À la fois Dieu comme père de son peuple, à la fois aussi comme l'époux aussi de ce peuple avec qui il était alliance. Toutes les nuances de l'amour se manifestent dans la miséricorde de Dieu. Et même, rajoute pas, quand excédé par l'infidélité de tout peuple, le Seigneur envisage d'en finir avec lui, c'est encore sa tendresse et son amour généreux pour les siens qui l'emporte sur sa colère. Dernière expérience, expérience individuelle, on a un, mais une des plus belles expériences de la miséricorde de Dieu, c'est celle de David. Le psaume 50, si vous connaissez par cœur, on l'entend souvent. David qui a flotté gravement, hein, puisqu'il a voulu prendre la femme de son voisin, qui était général, donc il a envoyé le général sur la guerre pour que le général soit tué, afin que la femme à qui il avait fait un enfant, à qui il avait conçu un enfant, rien puisse devenir la sienne. Crime atroce, péché extrêmement lourd de David, ce qu'on avait dit de beau sur David. Celui que Dieu avait choisi. On est tous capables. Meilleur des victimes. Et David va être. En fait, Nathan va lui révéler son péché. Et David va être un très bon exemple de repentir et de douloureux. Et va en appeler à la miséricorde. C'est le psaume 50 que j'ai par cœur. Pitié pour moi, mon Dieu, mon amour, ce mon très grand miséricorde de face, son péché. Ça, c'est un très beau psaume qu'on peut prendre pour en se préparer à se confesser. C'est en toute l'invocation, la supplication d'un homme qui prend conscience de son péché terrible, mais qui espère en la miséricorde de Dieu. Vous voyez, c'est le cœur même de sa faute, pose cet acte de foi, va chercher du profond de son cœur cette espérance que Dieu est un Dieu de miséricorde. Ma faute est toujours devant moi. On sent que c'est terrible. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je suis né dans la faute des pécheurs et sans mon maître. Mais détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, prends-moi un cœur pur. Ne me chasse pas le nom de ta face. Rends-moi la joie d'être sauvé. C'est magnifique. Hein? Tous les psaumes, j'aime beaucoup les psaumes, parce que les psaumes, ça nous rejoint. C'est tous les sentiments qu'on peut vivre, vous les retrouvez dans les psaumes. Et parfois, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment prier. Et en fait, les psaumes mettent des mots sur ce que vous ressentez. Et vous le sentez comme porté par cette prière qui a plusieurs milliers d'années. Jean-Paul II continue sur la miséricorde du Nouveau Testament en disant que la miséricorde se situe ainsi, dans un certain sens, à l'opposé de la justice divine. Elle se révèle en bien des cas non seulement plus puissante, mais encore plus fondamentale qu'elle. L'amour, toutefois, est plus grand que la justice. Il est plus grand en ce sens qu'il est premier et fondamental. Le primat et la supériorité de la charité sur la justice se manifestent précisément dans la miséricorde. On va le voir dans le Nouveau Testament. Mais déjà c'est présent. Alors que Dieu, et ce qui est juste ici, pourrait se détourner de son peuple, renoncer à son projet, le laisser à son triste sort, eh bien, le fait que l'amour dépasse la justice, c'est justement ça, la miséricorde. C'est ainsi que se révèle la miséricorde. Passons maintenant au Nouveau Testament, avec le choix de Jean-Paul II dans son encyclique, de s'arrêter sur la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue, celui qui quitte. Vous le connaissez par cœur, cette parabole, hein, l'évangile de Luc, hein, celui qui quitte son père en déclarant la moitié d'héritage, qui a dilapidé cet héritage pendant 3 ans dans une vie de désordre, et puis qui revient. Alors, là aussi, c'est intéressant, Jean-Paul II souligne des aspects peut-être auxquels on ne pense pas forcément. D'abord, il rappelle que le plus terrible dans l'histoire de fils prodigue, c'était que David, c'est bien, David a de l'argent, certes, mais il va perdre un bien encore plus précieux qu'il avait reçu son père, c'est cette dignité de fils. Et son attitude, son comportement en 3 ans, lui fait perdre toute dignité. C'est ça le vrai drame. C'est pas simplement qu'il ne possède plus, mais c'est le drame de sa dignité perdue, la conscience de son caractère, de cette dignité gâchée. Et en même temps, inversement, c'est ce qu'il y a de plus beau de l'accueil du Père. La fidélité du Père est en même temps exprimée d'une manière particulièrement chargée d'affection. Nous disons en effet que le Père, voyant l'enfant prodigue, revenait dans la maison, qu'il prit de pitié, qu'il voulut que je passe un tour, et l'embrassa tendrement. Il agit évidemment poussé par une profonde affection. Et cela peut expliquer aussi sa générosité envers son fils. Cependant, les causes de cette émotion doivent être recherchées plus profondément. Le Père est conscient qu'un bien fondamental a été sauvé, l'humanité de son fils. Bien que celui-ci ait dilapidé son héritage, son humanité est cependant sauve, plus encore, elle a été comme retrouvée. La fidélité du Père à lui-même est totalement centré sur l'humanité du Fils perdu, sur sa dignité retrouvée. Ainsi s'explique surtout sa joyeuse émotion au moment du retour à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le Père est fidèle, et c'est en ça qu'il est miséricordieux, il est fidèle à son amour de Père pour son Fils. Et à ses yeux, son Fils reste son fils. Et donc, sa joie est que son fils a découvert cela, a pris conscience de cela. Au début, rappelez-vous, quand le fils revient, il dit, je vais revenir parce que je n'ai plus rien à manger, je n'ai plus bien perdu cette dignité fils. Puisqu'il dit, je vais être comme un mercenaire chez mon père. Il me prendra non plus comme mon fils, mais comme son mercenaire. C'est la seule chose qu'il espère, qu'il peut espérer. Donc le fils, vous voyez, a fait cette travail de vérité sur lui-même. Il se reconnaît absolument indigne désormais. Sauf que quand il revient, il découvre qu'aux yeux de son père, parce que son père est miséricordieux, il est demeuré fils. Toujours aimer, aimer inconditionnellement, aimer fidèlement. Parce que le Père est fidèle à sa paternité, justement. Voilà le cœur de la miséricorde de Dieu. Voilà vraiment le plus qui est plus profond dans la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu consiste à voir dans les pauvres que nous sommes ses enfants et à persévérer à voir en nous cette dignité de fils et de fille de Dieu aux yeux de la famille. Rien ne peut enlever le regard de Dieu et notre dignité d'enfant de Dieu. Même derrière une montagne de péchés, même derrière tant de blessures, nous restons aux yeux de Dieu ses enfants bien-aimés. Voilà la miséricorde de Dieu. Le Père garde le souci de la dignité de son fils. Et dès qu'il arrive, il veut lui manifester. C'est pour ça d'ailleurs, oui, la tristesse de Dieu quand nous péchons, c'est pas tellement, c'est pas d'abord la tristesse que nous lui causons. C'est la tristesse de nous voir blessés. Parce qu'il y a, il y a un tel sens de notre dignité. Hein, ceux qui sont parents parmi nous le savent bien, le voient bien. Un enfant qui fait n'importe quoi, ça nous fait de la peine. Mais on a encore plus de peine de le voir abîmé, de le voir blessé, de le voir triste. Vous voyez, c'est un mot de miséricorde, de compassion qui est donné. On ne supporte pas ça quand on, vraiment quand on aime comme un père. Cette joie du Père manifeste qu'un bien était demeuré intact. Un fils, même prodigue de pape, ne cesse pas d'être réellement fils de son Père. Cette joie en outre marque qu'un bien a été retrouvé. Dans le cas de l'enfant prodigue, c'est le retour à la vérité sur lui-même. Pendant 3 ans, il s'est arrivé. Pendant 3 ans, il s'est plus capable d'être heureux sans son père, loin de son père. Et puis là, il reconnaît. Non seulement il a tout perdu, mais en plus, il a perdu sa dignité, l'enfant de Dieu. En tout cas, le croit-il. Parce qu'il reconnaît que son attitude, sa vie, ses actes n'ont pas été à la hauteur de cet état d'enfant de Dieu. Et c'est ce travail de vérité qui fait en nous-mêmes, qui fait la joie du Père. Parce que là, il y a quelque chose qui se joue d'important pour le Fils. Il se retrouve capable et il revient vers Dieu en vérité. Et c'est ça qui permet au Père de lui montrer qu'il était toujours en fait aimé. Le Père voit avec tant de clarté le bien qui s'est accompli grâce au rayonnement mystérieux de la vérité et de l'amour, qui semble oublier tout le mal que son fils avait commis. Vous voyez, quand nous venons le confesser, quand nous venons faire cet effort de vérité devant Dieu, sous le regard de Dieu, eh bien, ça cause une telle joie au Père qu'il en oublie tout le mal qui a été commis. Autre chose très précieuse, cet amour, la miséricorde, cet amour est capable de se pencher sur chaque enfant prodigue, sur chaque misère humaine, et surtout sur chaque misère morale de l'État. Lorsqu'il en est ainsi, celui qui est objet de la miséricorde ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et revalorisé. Ça, c'est très profond. Vous voyez, c'est pas juste « je te pardonne ». Du haut de ma splendeur, je te pardonne. mais je te revalorise. Je te retrouve. C'est important parce qu'on peut avoir parfois l'image de la miséricorde de Dieu comme quelque chose, et ça prend du mal à se passer pour ça, de très humiliant. Parce que je me traîne avec mes péchés devant Dieu qui trois fois saint, et du coup, mais c'est je suis moins que rien. Et en plus, je suis du coup en dépendance vis-à-vis de celui qui m'accorde son pardon. Parfois, on a du mal à demander pardon, oui, mais c'est non-là. Parce qu'on n'aime pas se montrer redevable à quelqu'un, ou moins bien qu'un autre. Mais ce qui est extraordinaire dans la miséricorde de Dieu, c'est que on n'est pas humilié. On n'est pas humilié devant Dieu. Même le plus grand des pécheurs n'est pas humilié devant Dieu. Parce que quand l'enfant prodigue arrive et qu'il commence à prononcer ces quelques phrases, lui, il est prêt à toutes les humiliations. Il est prêt à être considéré comme un esclave et un mercenaire. Il est prêt à ça. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ça aurait été juste, mais ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire, il se retrouve valorisé, revalorisé, remis à sa place de fils, restauré dans sa beauté et sa dignité d'enfant de Dieu, d'enfant du Père. Ça, c'est extrêmement fort. La miséricorde du Père se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle revalorise, quand elle promeut, quand elle tire le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans l'homme. Elle est comme une démonstration du dynamisme de l'amour qui ne se laisse pas vaincre par le mal, mais qui est vaincu du mal par le bien. Je ne vais pas s'arrêter là. Je pense moi-même à ce passage quand je parle souvent de Jésus-Christ, qui m'a beaucoup touché, de la rencontre de Pierre après la résurrection avec Jésus. Où il se passe la même chose. Pierre revient vers Jésus, il n'est pas Pierre, il a posé son péché, il a croisé les doigts de Christ, il a compris sans doute qu'il était aimé. Mais bon, là encore, la justice aurait voulu que Pierre soit qu'on lui retire sa charge, il n'a pas été à la hauteur, éventuellement qu'on lui pardonne, mais non, voilà, on arrête là, on reste là. Et Saint Jean prenne la place, parce que lui avait été fidèle. Mais la miséricorde de Dieu va plus loin que le simple pardon. Non seulement Pierre est pardonné, mais parce qu'il aime vraiment, parce qu'il est la parole. Pierre, même tu, lui, Seigneur, tu sais tout ce que je t'aime. Alors viens sur moi. Et Jésus, voyez, le revalorise. Le reconstruit, le rend capable à nouveau d'être ce qu'il veut profondément, lui redonne sa place. Voilà, mes amis, cet aspect si particulier de la miséricorde, qui n'est pas un simple pardon, ou un pardon facile, mais qui est vraiment le plaisir de Dieu de nous restaurer dans toute la conscience et la beauté de notre dignité d'être en Dieu. De nous rendre capables de ce qu'on voulait être, de que le péché nous a donné. De nous redonner notre place dans son cœur. Il n'est pas question d'un pardon qui humilie, d'un pardon qui sans cesse nous rappelle nos fautes passées. Comme si Dieu nous tenait par là. Le regard de Dieu qui se pose sur nous, c'est un regard qui n'a jamais, qui ne l'a jamais regardé autrement qu'en voyant en nous l'enfant que nous étions, l'enfant aimé du Père. Jamais Dieu ne nous a regardé autrement que comme fils ou fille. Fils de Dieu, fille de Dieu. Aucun de nos péchés, ne l'empêchera de nous regarder ainsi. Quel que soit le discours. C'est très fort. Alors même que nous, Parce que nous nous désolons, nous nous décourageons, nous nous désespérons de nous-mêmes. Nous nous en voulons. Jamais Dieu, oui, ne renoncera à voir en nous son enfant bien-aimé. Et quand on revient, c'est pas comme si vous aimez à nouveau comme son enfant bien-aimé. Il n'a jamais cessé de vous aimer ainsi. Mais il vous manifeste plus que jamais. Il nous fait redécouvrir à nous qui nous a aimés ainsi. Le détail qui m'a toujours touché dans cette parole de l'enfant prodigue, c'est que le Père voit l'enfant venir de loin. Ça veut dire quoi? En fait, s'il le voit venir de loin, c'est que, en fait, chaque jour, il n'y a pas de surprise, c'est que chaque jour, il allait regarder l'horizon. Chaque jour, il montait sur le toit pour regarder l'horizon. S'il l'avait venu de moi, c'est qu'en fait, il était à le scruter. Pendant 3 ans, jour après jour, chaque jour, sans jamais en manquer un seul, il allait voir l'horizon. Est-ce que mon fils l'a retenu? Pour que je lui montre que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et Dieu ne cessera, c'est bouleversant parce que Dieu ne cessera jamais de nous attendre. Chaque jour, il allait le voir, si c'était ce jour-là qu'il allait revenir. Jamais, jamais, il a décidé qu'il s'était foutu. Jamais, il s'est dit, il est trop loin de nous. Trop abîmé, trop péché. Jamais. Nous allons prendre ce temps de prière devant Jésus. Et c'est la grâce que je vous propose de demander. Que nous puissions, comme l'a appris Saint Faustin, répéter inlassablement, quel que soit notre état, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre pauvreté, Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que rien, rien, pas même notre péché, ne doit nous empêcher de prononcer ces mots. Voilà la leçon de la miséricorde de Dieu. Où que j'en sois, je peux prononcer ces mots. Je peux dire comme un bon larron, souviens-toi de moi. Je peux, comme Saint-Pierre, dire, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et oser regarder Jésus. Et surtout, me laisser regarder par lui. Je vous propose de demander cette grâce-là, de ne jamais douter de la bienveillance, de la miséricorde du regard de Dieu sur vous. Et je vous propose de prier pour une deuxième intention, pour tous ceux qui doutent, tous les fils prodigues qui sont loin, comme nous avons parfois pu l'être, comme nous pouvons parfois l'être, mais qui, eux, peut-être, n'osent pas revenir, ne savent pas comment revenir, ont peur d'être humiliés en revenant, ont peur ou doutent du regard qui se posera sur nous. Que nous puissions, d'une façon ou d'une autre, par nos prières au moins, peut-être par nos témoignages, obtenir qu'il découvre la miséricorde de Dieu. Ce cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme, jamais pour condamner, mais toujours pour aimer et sauver. Amen.